Salut, bienvenue à tout le monde. Alléluia. Ce soir, nous prendrons le troisième message de cette formation étudiantine. Et nous allons commencer immédiatement avec des cantiques. Nous passerons la main aux frères et sœurs de Charlotte en Caroline du Nord. Ils vont nous conduire dans les chants pour le message numéro 3. Loué soit le Seigneur, tout le monde. Nous sommes de Charlotte, nous voulons chanter avec vous et nous voulons chanter les rachetés du Seigneur vont retourner. C'est le premier cantique. Alors les rachetés du Seigneur vont retourner et rentrer avec des chants à Sion. Et ils auront sur leur tête une joie éternelle. Alors les rachetés du Seigneur retourneront, ils reviendront à Sion avec des chants et ils auront une joie éternelle sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie et la tristesse et les lamentations s'en iront au loin. Alors les rachetés du Seigneur retourneront. Ils reviendront avec des chants à Sion. Et ils auront une joie éternelle sur leur tête. Alors les rachetés de l'Éternel, du Seigneur, reviendront. Ils reviendront avec des chants à Sion. Et une joie éternelle sera sur leur tête. Alors les rachetés de l'Éternel reviendront, ils retourneront avec des chants à Sion, et ils auront sur leur tête une joie éternelle. Ils obtiendront l'allégresse et la joie. Et la tristesse et les lamentations s'en iront au loin. Alors les rachetés du Seigneur retourneront et reviendront à Sion avec des chants et la joie éternelle couvrira leur tête. Alléluia. Ils reviendront avec des chants à Sion. Oh, à Sion. Maintenant nous allons chanter la vision de l'édifice de Dieu. C'est le cantique numéro 3. Jacob eut à Bethel un rêve, une vision. Moïse à la montagne eut aussi une vision. David reçut, lui, la vision du Saint-Temple. Ézéchiel vit la maison en vision. Puis Jean vit en vision la Nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en l'homme édifié, dispensé. Oui, pour la vision, nous nous ouvrons au Seigneur. La révélation nous vient de sa parole. Dans l'esprit, nous restons et l'Église est édifiée. C'est la plénitude du Seigneur. Zacharie eut la vision du recouvrement, c'est la sauve de Dieu. Daniel vit en vision le Christ victorieux. Pierre et Paul ont eu la vision du corps édifié, complétant la vision de l'arche. Puis Jean vit en vision la Nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu, en l'homme édifié, dispensé. Oui, pour la vision, nous nous ouvrons au Seigneur. La révélation nous vient de sa parole. Dans l'esprit, nous restons et l'Église est édifiée. C'est la plénitude du Seigneur. On reprend. Jacob eut à Bethel un rêve, une vision. Moïse à la montagne eut aussi une vision. David reçut, lui, la vision du Saint-Temple. Ézéchiel vit la maison en vision. Puis Jean vit en vision la Nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en l'homme édifié, dispensé. Oui, pour la vision, nous nous ouvrons au Seigneur. La révélation nous vient de sa parole. C'est dans l'esprit nous restons et l'Église est édifiée. C'est la plénitude du Seigneur. Zacharie eut la vision du recouvrement. Daniel vit en vision le Christ victorieux. Pierre et Paul ont eu la vision du corps édifié, complétant la vision de l'arche. Puis Jean vit en vision la nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en l'homme édifié, dispensé. Oui, pour la vision, nous nous ouvrons au Seigneur. La révélation nous vient de sa parole. Dans l'esprit, nous restons et l'Église est édifiée. C'est la plénitude du Seigneur. Puis j'en vis en vision la nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en l'homme édifié, Dieu en l'homme dispensé. Oui, pour la vision, nous nous ouvrons au Seigneur. La révélation nous vient de sa parole. Dans l'esprit, nous restons, l'Église est édifiée. C'est la plénitude du Seigneur. Puis Jean vit en vision la nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en l'homme édifié, dispensé. Oui, pour la vision, nous nous ouvrons au Seigneur. La révélation nous vient de sa parole. Dans l'esprit, nous restons et l'Église est édifiée. C'est la plénitude du Seigneur. Éphésiens 1, 23. Amen. Dieu est dispensé en nous. Nous avons besoin de la vision. Nous nous ouvrons au Seigneur. Oh, nous sommes tous pour l'édification du corps, de l'Église. L'Église est la plénitude de Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous ouvrir ce week-end au Seigneur afin qu'il puisse nous montrer sa vision. Ouvrons-nous continuellement en chantant cet autre cantique au Seigneur. Le cantique numéro 7, l'eau pour y nager. L'eau pour y nager peut nos besoins combler. Cette eau se coule et ne s'abaisse jamais. Par la grâce vive, nous sommes limités afin que la vie de notre âme soit transformée. Buvons cette eau coulant librement. Coule en moi l'eau vive. M'inonde pleinement. La vie s'accroît en moi quotidiennement pour l'édification de son recouvrement. C'est le cantique numéro 7 dans la liste. L'eau pour y nager, strophe 2, jaillit vers l'Orient. Au Dieu glorieux lui-même, nous cherchons. La prééminence toujours lui accordant de la vie d'Église. Jamais nous ne dévions. Le refrain, buvons cette eau vive, coulant librement. Coule en moi l'eau vive, m'inonde pleinement. La vie s'accroît en moi quotidiennement pour l'édification et son recouvrement. 3. L'eau pour y nager s'accroît à chaque étape. Montant et coulant pour achever cette tâche. Nous jugeons afin que nous ayons plus de vie pour qu'au nom de Jésus le monde soit conduit. Le refrain. Buvons cette eau vive, coulant librement. Coule en moi l'eau vive, m'inonde pleinement. La vie s'accroît en moi quotidiennement. Pour l'édification et son recouvrement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci pour l'eau vive. Il coule gratuitement. Oh, l'eau vive gratuitement. Merci. Chantons également ce cantique une nouvelle fois. C'est le même cantique que les frères chantent. Ok, le refrain. Buvons cette eau vive, coulant librement. Coule en moi l'eau vive, m'inonde pleinement. La vie s'accroît en moi quotidiennement, pour l'édification et son recouvrement. 2. L'eau pour y nager jaillit vers l'Orient. Au Dieu glorieux, lui-même nous cherchons. La prééminence toujours lui accordant. De la vie d'Église, jamais nous ne dévions. Buvons cette eau vive, coulant librement. Coule en moi, l'eau vive, m'inonde pleinement. La vie s'accroît en moi quotidiennement pour l'édification et son recouvrement. 3. L'eau pour y nager s'accroît à chaque étape, montant et coulant pour achever cette tâche, nous jugeant afin que nous ayons plus de vie, pour qu'au nom de Jésus, le monde soit conduit. Le refrain, buvons cette eau vive, coulant librement, coule en moi l'eau vive, m'inonde pleinement. La vie s'accroît en moi quotidiennement pour l'édification et son recouvrement. Buvons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia pour la vie qui coule. Oh, et crois en nous chaque jour. Oh, pour l'édification glorieuse de son recouvrement. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Merci d'avoir chanté avec nous. À bientôt. Bye bye. Alléluia. Un grand merci à nos frères et sœurs de l'Église à Charlotte. Et merci. Bienvenue à tout le monde. Nous allons prendre le troisième message de cette formation. Et pour ceux qui aimeraient lire ce verset, Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alors ce soir, j'espère que nous pouvons être tous ceux-là qui verront Dieu. Nous passons la parole à l'orateur. J'espère que nous avons tous notre registre pour noter, notre bloc-notes. Nous avons beaucoup à recevoir de ces messages. Nous passons la parole maintenant à notre frère Craig Bridgeley, qui partagera le message de ce soir. Exerçons notre esprit, chers saints. Alors, nous sommes au message 3 ce soir, et ce que j'aimerais faire, c'est aller directement dans le plan de ce message, afin que nous puissions gérer notre temps. Message 3 sur le besoin de purification pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu. Dans quelques minutes, nous allons lire les passages clés tirés du livre d'Esdras, où nous voyons cette histoire du besoin de la purification. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais nous rappeler que nous avons vu, comme l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens, que l'histoire des enfants d'Israël est devenue un exemple pour nous qui sommes chrétiens. Les chrétiens, le peuple du Nouveau Testament, le peuple de Dieu du Nouveau Testament, et nous apprenons de leur histoire, leur expérience. Et en rapport avec les enfants d'Israël, le dessein de Dieu était de les amener dans un pays appelé le bon pays qu'ils devaient posséder, dont ils devaient se réjouir. Et à partir de cette réjouissance, ils devaient édifier, construire le temple qui était la demeure de Dieu sur la terre. Il devait ériger le royaume qui deviendrait une représentation de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. Mais le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament n'a pas pris soin du pays. Ils ne se sont pas souciés de ce que Dieu avait demandé qu'ils fassent. Et finalement, ils ont perdu la réjouissance du bon pays. Et le plus sérieux, c'est que le temple, la demeure, la maison de Dieu sur la terre parmi les hommes, a été détruite, perdue, et le peuple de Dieu a été amené en captivité. Et cela faisait partie de la discipline de Dieu vis-à-vis de... Dieu a permis que cela arrive seulement pour une période de temps, comme nous l'avons vu dans les nuits précédentes, les messages précédents. Dieu est venu pour faire quelque chose, pour réveiller l'esprit de quelques-uns, les amener à retourner, à revenir vers ce pays et à rebâtir le temple. Donc, Dieu, afin qu'il puisse avoir sa demeure sur la terre. Et en ce qui nous concerne, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Église, nous savons, en lisant la Bible, le Nouveau Testament lui-même, et en considérant les 2000 années de l'histoire de l'Église, nous savons qu'il y a eu des choses qui se sont infiltrées et qui ont amené le déclin dans l'Église, qui ont amené la dégradation de l'essence originelle de l'Église. Mais Dieu, de la même manière qu'il s'est pris avec Israël, aujourd'hui Dieu dans le Nouveau Testament n'a pas cessé son œuvre d'édification de l'Église. Et aujourd'hui, Dieu est parmi son peuple. Et il cherche ceux-là qui répondront à son appel afin qu'ils soient recouvrés vers lui, qu'ils soient ramenés à ce que, à l'intention originelle de Dieu concernant l'Église. Et ce soir, nous devons avancer pour voir quelque chose de plus. Dieu a besoin d'œuvrer, quelque chose que Dieu a besoin de faire dans son peuple, afin qu'il puisse gagner l'édification de l'Église, qui est sa maison, sa demeure. La nuit dernière, nous avons vu que nous sommes l'Église. Cela veut dire nous sommes la demeure de Dieu. J'aimerais vous poser cette question. Où est-ce que ce Dieu habite? Peut-être je demanderai, ne répondez pas. Où est-ce que vous vivez? Vous répondrez en donnant une adresse. Je vis ici, à tel endroit. Et si je veux vous retrouver, si je veux vous rendre visite, si j'ai besoin de passer quelque temps avec vous, il me suffit d'avoir votre adresse, où est-ce que vous vivez, et je pourrais venir vers vous, je pourrais passer du temps avec vous, et je pourrais vous localiser facilement. Mais où est-ce que Dieu vit, lui? Quelle est son adresse à lui? L'adresse de Dieu, c'est l'Église. Mais l'Église, c'est vous et moi. Nous sommes où Dieu, nous sommes la demeure de Dieu, c'est en nous qu'il demeure. Quelque chose qui se rapporte à une maison, une demeure, votre maison, votre maisonnée est le lieu où vous avez du repos. C'est le lieu où vous êtes satisfait et c'est là que vous manifestez votre expression. Vous savez, sans la pandémie, je voyage beaucoup lorsqu'il n'y a pas de pandémie et je suis logé chez beaucoup de personnes. Et vraiment, chaque fois, ils me disent, mets-toi à l'aise, sens-toi chez toi, mais ce n'est pas quelque chose de facile de me sentir chez moi ailleurs, dans leur maison. Mais lorsque je reviens chez moi et que j'entre dans la maison, oh, je suis chez moi, je suis à la maison. Voilà, c'est là le lieu où je trouve le reste, le repos, la satisfaction et où j'ai mon expression. Je fais chez moi comme je veux, les choses sont comme je suis, ça, c'est une, je suis sûr. Je sais que ces frères et sœurs qui me logent et qui me disent, mets-toi à l'aise, je suis sûr qu'ils ne veulent pas dire, sens-toi libre de changer la couleur au mur, ou bien de changer l'ordre des choses à la cuisine, ou de mettre la nourriture dans le réfrigérateur. Je ne pense pas que c'est ce qu'ils veulent dire. Mais lorsque tu es chez toi, ils sont chez eux. Chez toi, tu fais comme tu veux. Tu as ce que tu désires. C'est ton expression. Avec cette compréhension, nous sommes la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Cela veut dire qu'en nous, individuellement et corporativement, Dieu doit trouver son repos. Il doit avoir sa satisfaction. et son expression en nous. Mais ce soir, nous devons voir, selon la vérité, qu'il y a des choses en nous qui ne permettent pas à Dieu de trouver son repos, sa satisfaction et son expression. Et je vais m'efforcer au mieux ce soir, non pas d'énumérer quelles sont ces choses, mais de parler d'une manière en me servant de la parole de Dieu, de manière à permettre au Seigneur de vous rendre visite, que le Seigneur puisse briller en vous, de faire en sorte qu'il puisse toucher en vous, dans votre cœur, quelque chose, toute chose qui l'entrave, lui, qui l'empêche d'avoir son repos, sa satisfaction et son expression en vous. Et aussi que le Seigneur, pendant qu'il parlera à chacun de vous, pendant qu'il brillera en vous, j'aimerais vous demander de lui répondre, de répondre au Seigneur, de répondre en confessant, non pas en couvrant, non pas en rejetant, en refutant, mais en étant d'accord, disant oui Seigneur, j'ai ces choses dans mon cœur. Elles t'empêchent de gagner ta demeure en moi. Seigneur, confessez ces choses. Et pendant que le Seigneur pourra vous parler, vous toucher, aborder certains aspects dans votre vie, vous aurez peut-être besoin d'abandonner certaines choses dans votre vie, dans votre existence, pour la maison de Dieu, pour la demeure de Dieu. Avec ceci, chers frères, nous pouvons voir les versets dans Esdras chapitre 9. Vous pourrez le lire quand vous serez chez vous, tout le chapitre, à partir du verset 1 à 15. Mais j'aimerais sélectionner quelques versets à partir du verset 1 et 2. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Éthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ces péchés. Alors, celui qui parle ici, c'est Esdras. Il était un scribe sacerdotal, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, et en tant que sacrificateur, il pouvait communier avec Dieu. Il savait comment accéder à la présence de Dieu. Il connaissait la présence de Dieu et il connaissait la parole de Dieu. Et on lui a dit, on lui a fait ce rapport, lui disant que le peuple de Dieu s'était mêlé avec les peuples de ces pays, le peuple du pays. C'est ceux-là qui adorent les idoles. Ils n'adorent pas Dieu, ils adoraient les idoles. Et leur dessein, leur but n'avait rien à voir avec la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Et Dieu avait averti, mis en garde ses enfants en leur disant, ne vous unissez pas avec ces peuples. Particulièrement, ne vous mariez pas avec ces gens parce que, à la fin, ils vous mèneront, ils vous pousseront à vivre comme eux-mêmes. Et non seulement à vivre comme eux vivent, mais et même à adorer ce qu'ils adorent. J'aimerais continuer la prochaine diapositive, verset 10.
et 11, à 12, pardon. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements? Oh, c'est Esdras qui parle, il confesse. Il n'essaye pas de réfuter cela, mais il confesse. C'était la vraie, la véritable situation, la situation réelle. Et il confessait également que cela était contraire à la parole du Seigneur, à l'ordre du Seigneur. Les commandements du Seigneur sont ce que le Seigneur a prescrit. Je vais continuer la lecture. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour héritage, vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. J'aimerais souligner certains points dans ce verset qui pourront nous aider, nous servir de ligne directrice dans le partage. Il y avait une situation de mélange. Le peuple de Dieu était mêlé avec ceux-là qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ils étaient unis même par les liens du mariage. Et cela était contraire à la parole de Dieu, à son commandement. Et lorsque Esdras en a entendu parler, il a confessé que c'est effectivement ce qui s'est passé. Il s'est rendu compte que c'est quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu. Et puis, au verset 12, il a dit que Dieu avait dit non seulement nous ne devons pas nous mêler, vous ne devez pas vous mêler avec ces gens, mais vous ne devez même pas vous soucier, vous ne devez pas prendre leur voie pour rechercher leur prospérité et la paix. Au verset, vous voyez, au verset 2, il est dit que le peuple de Dieu était une race sainte, un peuple saint. Et lorsque nous repartons voir le récit de la création, et en lisant également Deutéronomie, nous voyons que lorsque Dieu a créé chaque chose, il a créé chaque chose selon son espèce. Et Dieu ne veut pas le mélange des différentes espèces. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes ce que Dieu considère une semence sainte, une race sainte, un groupe de peuples séparés. Et nous ne devons pas nous mêler avec ceux-là qui ne sont pas saints. Nous verrons pourquoi. Est-ce qu'il en est ainsi? Dans quelques minutes, nous verrons les frustrations que cela apporte, touchant la maison de Dieu, l'édifice de Dieu, lors donc que nous sommes mêlés à ces personnes. Avec cela, allons au grand 1 et nous voyons ensemble ces principes de Babylone, ces principes du mélange, oui, et comment cela frustre, empêche Dieu de gagner sa demeure, sa maison. Vous pouvez lire le grand 1. Grand 1. Babylone est un mélange des choses de Dieu avec les choses des idoles. Et le principe de Babylone consiste à mélanger les choses de l'homme avec la parole de Dieu et les choses de la chair avec les choses de l'esprit. À l'entame de ce grand 1, il nous est dit que Babylone est un mélange des choses de Dieu avec les choses des idoles. Le premier verset qui est référencé, c'est 2 Chroniques 36, versets 6 à 7. Mais j'aimerais simplement mentionner le verset 7. Il est dit que Nebuchadnezzar a aussi emporté les vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone au moment où Israël et Juda ont été conquis et le peuple a été amené en captivité. C'est à ce moment que la maison de Dieu a été détruite. Ce roi babylonien a pris les ustensiles, les vases qui étaient dans la maison de Dieu, qui permettaient, qui servaient à l'adoration de Dieu et à son service. Il les a toutes amenées dans son palais. Il les a déposées dans la maison de ses idoles. Il a donc mélangé les choses de Dieu avec les choses liées aux idoles. Et ceci nous montre un principe, une règle de base qui nous permet de savoir si quelque chose est de Babylone. C'est quoi Babylone? Qu'est-ce qui vient de Babylone? Qu'est-ce qui est Babylone dans le sens spirituel? Quelles règles pouvons-nous appliquer pour définir si une chose est de Babylone ou non? Nous pouvons appliquer cette règle. La chose implique-t-elle un mélange des choses de Dieu avec les choses des idoles? Ou, selon l'autre principe qui suit, le principe de Babylone consiste à mélanger les choses de l'homme avec la parole de Dieu et les choses de la chair avec les choses de l'esprit. Cela peut arriver dans l'Église. Cela peut arriver avec les croyants. Nous aimons l'esprit, mais nous aimons aussi les choses de la chair. Nous nous efforçons de mélanger ces choses, de les mêler, de mener une existence à la fois dans l'esprit et dans la chair. Et également, il existe un mélange des choses de l'homme avec la parole de Dieu. Prenons l'exemple d'Esdras dans le mariage. Les choses de l'homme, c'est quoi? Mais c'est, par exemple, qui dit que je ne peux pas épouser celui que je désire? Je ne peux pas épouser celui ou celle que je veux. S'exprimer de cette manière, c'est penser selon l'homme, ce sont les choses de l'homme. Qu'y a-t-il de mauvais? Si j'épouse quelqu'un qui vient une Jébusienne ou une Moabite, qu'y a-t-il de mauvais à épouser tel ou tel? Mais ce n'est pas là que nous commençons. Nous ne commençons pas par le point de vue de l'homme pour savoir si telle chose est bonne ou mauvaise. Nous commençons avec ce que Dieu dit. Que dit Dieu à propos de ces choses? Et Dieu a dit beaucoup de choses au sujet du mariage. Vous savez, Dieu est celui qui établit le mariage. Il est le premier. Qui sont ces gens qui unissent les gens? C'est eux qui jouent c'est lui le premier intermédiaire. C'est ça. Est-ce que vous savez que Dieu est le premier intermédiaire? C'est lui qui a uni le premier homme et la première femme ensemble. Adam et Ève, il les a joints afin qu'ils soient mariés parce que le mariage est directement lié au dessein de Dieu. Le mariage est pour le dessein de Dieu et non pas simplement pour l'homme. Certes, l'homme a besoin du mariage. Mais en fait, le mariage est beaucoup plus lié aux besoins de Dieu. Et Dieu est celui-là qui a ordonné le mariage avec son peuple dans l'Ancien Testament. Il ne voulait pas qu'il soit mêlé avec ceux des autres nations qui adoraient les idoles. Il leur a dit, si vous vous unissez avec ces gens, c'est vraiment ça le mariage, c'est une union, n'est-ce pas? Vous vous unissez à quelqu'un et Dieu mettait son peuple en garde. Si vous vous unissez à ces personnes qui adorent les idoles, vous finirez pas adorer leur idole. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec Salomon, le fils de David, un grand roi qui aimait beaucoup Dieu, mais il n'a pas exercé de la restriction, la restriction en ce qui concerne le mariage. Il n'a pas suivi le commandement de Dieu. Il a marié, il a épousé beaucoup de femmes étrangères et cela l'a amené à conduire à adorer les idoles à la fin de sa vie. C'est un avertissement concernant la personne avec qui vous vous unissez. Finalement, vous pourrez dire, vous pouvez penser, ah, je suis fort, je peux l'influencer, ils ne peuvent pas m'influencer. Mais j'aimerais le dire à nouveau, nous avons vu à plusieurs reprises beaucoup de croyants qui ont été influencés par leurs camarades, leurs amis non-croyants. Et donc, dans le Nouveau Testament, Paul parle du mariage et dans 2 Corinthiens 6, 14. Dans ce verset, il dit que nous ne devons pas, parlant de croyants, nous ne devons pas nous mettre sous un joug disparate avec les non-croyants. Et cela s'applique au mariage, mais également à d'autres types de relations dans la société, dans notre vie humaine. Nous devons, oh, le 2 doit. Nous devons appliquer cela également à tous nos rapports avec les uns et les autres. Nous ne devons pas être sous un joug disparate avec n'importe qui, avec les non-croyants, parce qu'ils finiront par nous amener à faire ce qu'ils font, à vivre comme eux, ils vivent. Alors ici, nous voyons les choses de l'homme. Serait pourquoi pas? Qu'y a-t-il de mauvais à cela? Cela est en opposition avec la parole de Dieu. Mais Dieu a parlé. Alors, le principe de Babylone consiste à mélanger, à mêler les choses de Dieu avec les choses des idoles. Or, nous pouvons dire les choses du monde, à les mélanger avec les choses de l'esprit, à mélanger les choses de l'esprit avec celles de la chair. Et dans Esdras 9, 12, que nous avons vu, même apprendre les voies ou adopter les concepts de cette âge, l'âge dans lequel nous vivons. Le moyen, leur manière de trouver la paix, le moyen d'atteindre la prospérité. Nous devons être de ceux-là, comme nous le verrons dans le plan. Notre dessein, notre but doit être Dieu lui-même. Et le désir du cœur de Dieu qui est l'Église. Mais les non-croyants, ceux qui marchent selon cette tâche, ils feront l'effort de vous dire non, 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 il y a une autre manière par laquelle vous pouvez vivre. Vous devez rechercher d'autres desseins, d'autres objectifs. Et si vous faites cela, vous aurez une vie paisible. Vous allez prospérer. Mais je vous dis, nous ne prendrons pas cette voie, leur voie. Nous ne prenons pas leur objectif comme le nôtre. Nous n'adoptons pas leur but. Notre but, notre dessein, c'est Dieu. Et ce que Dieu veut gagner dans l'homme, c'est ça notre dessein. Allons au grand A, j'aimerais le lire. Tout ce qui fait partie de Babylone est abominable aux yeux de Dieu. Et tout ce qui est babylonien donne à Satan le terrain pour vaincre le peuple de Dieu. La référence est donnée dans Josué 7 concernant Akan et une cité, une ville appelée Aï. J'apprends comment prononcer ce mot, les noms et les noms des personnes et des villes, j'essaie de m'exercer afin de mieux les prononcer. Mais cette histoire, pour être bref, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont entrés dans le pays. Ce pays était déjà possédé par les ennemis. Ils devaient donc combattre pour gagner le terrain de ces ennemis. Et ces ennemis, c'étaient des adorateurs d'idoles. La première bataille a été celle de Jéricho. C'est une bataille très reconnue. Dieu a gagné une grande victoire en combattant pour eux. La muraille s'est écroulée et ils ont gagné la ville. Le prochain lieu était une toute petite ville, toute petite cité, une contrée. Aïe. Josué et le peuple ont qualifié cette ville de très petite. Nous n'avons pas besoin d'envoyer beaucoup de personnes. Envoyons seulement 3 000, ce serait suffisant. Mais ils sont allés et ils ont perdu la bataille. Josué est allé devant le Seigneur en pleurant: Seigneur, pourquoi cela nous est-il arrivé? En fin de compte, le Seigneur a révélé que lorsqu'il avait dit aux enfants d'Israël de gagner Jéricho, il leur avait recommandé de ne rien garder pour eux-mêmes. Tout ce qui est dans cette ville est dévoué à la destruction. Nous ne gardons rien, mais l'un des enfants d'Israël, nommé Akan, a vu ce manteau babylonien et il a décidé de le garder avec de l'argent et de l'or. Il a caché cela dans sa tente, pensant que personne ne le savait, mais le Seigneur le savait. Il savait ce qu'il avait caché pour lui. Et cela a amené, a causé la défaite du peuple de Dieu. Finalement, Dieu a rendu et leur a permis de comprendre pourquoi ils ont été vaincus. Cela était à cause de cet homme parmi son peuple qui avait chéri un élément, un article babylonien. Il avait chéri, désiré quelque chose que Dieu avait dévoué, voué à la destruction. Et il avait fait l'effort, s'était efforcé de le garder. C'est ça le mélange. Il a voulu être pour Dieu, être avec le peuple de Dieu, mais également il voulait garder quelque chose qui vient de Babylone, quelque chose qu'il avait pris à Jéricho. Oh, Dieu avait refusé cela. Dieu ne pouvait pas accepter une telle chose. J'aimerais lire le point B et je partagerai plus dans ce point. Avant l'arrivée d'Esdras, il y avait de la mixture au sein du peuple recouvré, mais il purifia le recouvrement en faisant en sorte que la descendance sainte soit séparée de tout ce qui était païen. Donc, l'histoire continue. Le premier groupe est revenu de Babylone. Ils ont été utilisés pour construire la fondation du temple et pour construire le temple. À 15, 50 années sont passées. Un autre groupe est revenu sous la conduite d'Esdras, ses scribes sacerdotales. C'est donc à ce moment que Dieu a fait quelque chose, un travail pour purifier le peuple, pour les purifier ses enfants du mélange babylonien. Bien qu'ils étaient retournés, ils étaient sortis de Babylone, ils avaient gardé en eux beaucoup de choses qu'ils avaient reçues de Babylone. Et Dieu est venu pour les purifier. Si les frères peuvent peut-être mettre afficher le verset d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 17, versets 4 et 5. J'aimerais vous le lire. Apocalypse 17, versets 4 et 5. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa fornication. Sur son front était écrit un nom: Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, c'est une parole prophétique concernant l'église apostate, l'église qui s'est éloignée du dessein de Dieu pour l'église. Et au verset 4, pardon, il est dit que cette femme est vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle a une coupe qui est remplie. La coupe est ornée, oui, de pierres précieuses, de perles. Mais à l'intérieur, on ne dit pas qu'il y a de l'or. Mais elle est plutôt remplie d'abominations et des impuretés de la fornication de cette femme. Et au verset 5, l'église apostate ici est symbolisée par Babylone, Babylone la grande. Extérieurement, il y avait l'or précieux. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, c'est le matériel, c'est le matériau que Dieu utilise pour construire la cité sainte, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Donc, à l'extérieur, cela ressemble à quelque chose qui appartient à Dieu, qui est de son édifice. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelque chose d'autre. La coupe est remplie d'abominations, des choses impures, de sa fornication. Nous ne devons pas être un tel chrétien. Ne soyons pas un tel croyant. Extérieurement, nous sommes ornés, nous avons une certaine apparence, mais intérieurement, nous avons un contenu complètement différent. Nous devons faire l'effort d'être pareil à l'extérieur comme à l'intérieur. J'aimerais avancer. Le point C maintenant. Le mélange du moi avec l'esprit est un grand problème parmi les enfants de Dieu. Ce mélange disqualifie beaucoup de gens du service de Dieu, car dans leur esprit, il y a beaucoup de mélange, ce qui déplaît à Dieu. Le frère peut mettre le verset Hébreux 4, verset 12. Nous pouvons le lire ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus tranchante que n'importe quelle épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelle, et elle peut discerner les pensées et les intentions du cœur. Nous avons tous ce problème. Nous avons tous ce problème du mélange. C'est vrai, nous croyons en Dieu, nous aimons Dieu, nous sommes même pour Dieu dans son dessein, donc dans son édifice, mais également en nous, il y a d'autres choses que nous aimons également, que nous poursuivons, que nous recherchons également, qui peuvent devenir des frustrations, des entraves qui empêchent Dieu de gagner sa demeure de plus en plus en nous. Alors nous pouvons nous demander, qu'est-ce que je dois faire? Comment le savoir? Ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Comment savoir ce qui vient de l'âme, c'est-à-dire du moi, et ce qui vient de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu. Comment savoir si c'est ce que je désire ou si c'est ce que Dieu désire? Parfois, au moins dans mon expérience, il est difficile de dire la différence. Parfois, je suis très convaincu que ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Mais après avoir échoué, je me dis, oh, ce n'était pas la volonté de Dieu. Comment savons-nous? Mais ce verset est un réconfort pour nous. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et opérante. Elle est comme une épée qui peut séparer votre âme de votre esprit. Séparer ce qui vient de vous et ce qui vient de Dieu. Elle est à même de discerner les paroles, les pensées, les intentions du cœur. Elle est à même de discerner ce qui vient de votre opinion ou de Dieu. Nous devons être de ceux-là donc qui passons du temps dans la parole de Dieu. Et pendant que nous passons du temps dans la parole de Dieu et à travers cette parole, nous contactons Dieu, la parole ne demeure pas l'être pour nous, mais elle devient un moyen par lequel nous contactons le Dieu vivant. De cette façon, cette parole, ce Dieu vivant que nous contactons à travers sa parole, brillera en nous et nous parlera en nous. Et il séparera en nous ce qui vient de lui et ce qui vient de nous. Et le 1 dit, ce mélange disqualifie beaucoup de gens de servir Dieu, car il y a dans l'esprit beaucoup de mélange, ce qui déplaît à Dieu. 1 Timothée, 2 Timothée 1 fois. Paul dit, je rends grâce à Dieu que je sers dès mes ancêtres avec une conscience pure. Tandis que nuit et jour, je me souviens sans cesse de toi dans mes supplications. Paul était quelqu'un qui servait Dieu, mais il le servait dans une conscience pure. Pure. Être pur ici veut dire qu'il n'y a pas de mélange. Il n'y avait pas de mélange en Paul. Dans sa conscience, il n'avait pas de mélange. Deux, résoudre les problèmes de l'esprit, c'est s'occuper des motivations et des intentions impures et des autres mélanges qui sont en nous. Nous pouvons lire 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23. Et après cela, je vous parlerai d'un fardeau à ce sujet. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce verset. Que votre esprit, votre corps et votre âme soient conservés complets, sans reproche. Nous sommes une personne tripartite, des êtres tripartites. La partie la plus profonde en nous est notre esprit humain. C'est ce que nous avons dit au message 1. Dieu réveille notre esprit. Mais nous ne sommes pas qu'esprit, nous avons également une âme qui est notre personne avec notre volonté, nos émotions et nos pensées. Et ensuite, nous avons la couche extérieure qui est notre corps physique. Dieu veut nous sanctifier. Cela veut dire qu'il veut nous séparer, ne mettra pas hors de toute chose qui est commune, ordinaire, des choses qui ne sont pas saintes. En fait, la Bible nous dit que Dieu veut nous rendre saints. Même comme lui-même, il est saint. Notre Dieu est un Dieu saint. Mais comment Dieu nous rend-il saints? Comment est-ce qu'il nous purifie? Comment est-ce qu'il nous sanctifie? D'une part, cela nécessite une séparation. Dieu vient pour nous séparer des choses qui ne sont pas saintes. Mais en fait, d'autre part, cela vient par la saturation. En d'autres termes, Dieu qui est saint et qui est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Et ce saint, cette personne, celui-là qui est saint, est en nous, il est dans notre esprit. Et chaque fois que nous nous tournons vers lui pour le contacter, en tant que la personne sainte, il s'écoule dans plus, il se répand de plus en plus dans notre être. Et pendant qu'il s'écoule dans notre être, pendant qu'il s'écoule dans notre âme, dans nos pensées, dans notre volonté, dans notre émotion, avec tous nos sentiments, notre volonté, avec tous nos désirs, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir vos pensées ou vos sentiments. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais Dieu veut couler, s'écouler dans ces choses, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses désirs, et même de les saturer avec lui-même. Il veut que ses pensées soient vos pensées, que ses sentiments soient vos sentiments, et que son désir soit votre désir. Voilà de quelle manière Dieu nous purifie. En nous saturant et en nous séparant. Et plus Dieu peut nous saturer, plus nous pourrons expérimenter la séparation des choses par rapport aux choses qui ne sont pas saintes. Et j'aimerais vous donner, partager une expérience. Je viens de dire que j'aime cette histoire d'Esdras. La purification ne s'est pas produite lorsqu'ils étaient à Babylone. C'est après qu'ils étaient sortis. Et cela reflète beaucoup de choses dans nos expériences. Avant d'avoir été sauvés, nous étions dans le monde. Ou avant que le Seigneur ne nous ait réveillés en tant que chrétiens, nous étions impliqués dans des choses mondaines. Et le Seigneur ne nous a pas dit, reviens, sois sauvé. Mais tu dois d'abord te purifier, tu dois rejeter toutes choses et je te sauverai et je t'accepterai. Non, le Seigneur nous sauve. Pendant que nous sommes encore impliqués dans beaucoup de mélanges, le Seigneur vient et nous recouvre. Pendant que nous sommes encore mêlés à beaucoup de mixtures. Mais pour avancer avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse avoir un moyen d'avancer avec nous, de grandir en nous, de faire sa demeure de plus en plus en nous et viendra faire cette œuvre de saturation et de séparation en nous, afin de nous purifier des choses du monde, des choses ordinaires, des choses qui ne sont pas saintes, avec lesquelles nous nous sommes unis. Donc, nous avons peut-être expérimenté cela. Notre esprit a peut-être été réveillé. Et à un certain moment, nous nous demandons, mais où est-ce que cela est parti? Pourquoi est-ce que nous ne ressentons plus cet esprit ravivé? Il y a des moments où nous venons à la réunion, nous ressentons que la réunion est vraiment remplie. Et à d'autres moments, on se demande, mais il n'y a plus d'écoulement. La réunion n'est plus intéressante. Et on se pose, quel est le problème? Quelle est la frustration? La frustration ne vient pas de la réunion elle-même, mais de nous. Parce que nous n'avons pas été ouverts au Seigneur. Nous ne lui avons pas donné le terrain pour nous saturer et pour nous séparer des choses communes, des choses qui ne sont pas saintes, avec lesquelles nous sommes mêlés. Finalement, nous perdons ce sens, cette sensation de l'écoulement. Nous perdons ce réveil dans notre esprit. Et les réunions ne sont plus aussi réjouissantes qu'elles étaient. Nous devons revenir donc pour résoudre ces problèmes devant le Seigneur, avec lui, afin qu'il traite notre cœur, qu'il traite notre conscience, qu'il résolve toutes ces choses qui touchent, afin qu'il puisse continuer à couler en nous. Le grand 2 maintenant, c'est comment nous donnons au Seigneur le moyen de nous saturer. Le grand 2, nous avons besoin d'être purs dans le cœur, dans la conscience et dans l'esprit. Et j'aimerais dire, dans mon expérience, lorsque j'avais votre âge, le Seigneur m'a ravivé en tant que jeune croyant et j'ai commencé à le poursuivre et à avancer avec lui, être dans l'église, dans les réunions. Mais je me suis rendu compte que plus j'avançais avec le Seigneur, plus le Seigneur venait et brillait sur certaines choses avec lesquelles j'étais mélangé dans ma vie, les personnes avec qui j'étais uni, des choses auxquelles je m'étais attaché. Mais parfois, je ne me joignais pas à ces choses, mais je ne me séparais pas d'elles. Et le Seigneur venait. Il continuait. Il disait, tu ne peux pas continuer à vivre de cette manière. Et j'ai dû traiter, résoudre tous ces problèmes concernant ces choses et la manière dont je vivais. Et plus je traitais ces choses devant lui, plus je lui donnais le terrain en confessant, en étant d'accord avec ce qu'il disait. Lorsqu'il me demandait d'abandonner certaines choses, je coopérais pour mettre ces choses de côté. Plus donc l'écoulement continuait. En fait, l'écoulement ne continuait pas simplement, mais il grandissait. Aujourd'hui, après plus de 30 ans, je peux dire mon esprit est toujours ravivé. J'ai l'impression que il est davantage ravivé pour le Seigneur. Et l'écoulement est plus intense que quand j'étais jeune comme vous. Et cela arrive parce que je suis de plus en plus saturé, de plus en plus séparé. Quand le Seigneur coule, le Seigneur touche à certaines choses, j'obéis, je coopère avec tout ce que le Seigneur touche. Mais à chaque fois que j'obéissais, chaque fois que je coopérais, l'écoulement devenait de plus en plus profond. Et c'est comme cela que le Seigneur œuvrait son dessein en moi. Ok, j'aimerais lire le A. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Matthieu 5, 8, c'est un merveilleux verset. J'aimerais tout simplement le lire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 1 et 2 dit ce que c'est qu'avoir un cœur pur. Être pur de cœur, c'est avoir un seul but. Celui d'accomplir la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Un cœur pur est un cœur qui prend le Seigneur comme unique but. Nous devrions avoir un cœur pur et simple pour le recouvrement du Seigneur. C'est seulement ainsi que nous serons une aide pour le recouvrement. Donc, pour être pur, c'est être simple. Nous devons être purs, simples dans notre cœur, afin que Christ puisse grandir en nous, sans aucune entrave. Et lorsqu'il grandit, il fait sa demeure en nous. C'est comme ça qu'il gagne sa maison en nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, car ils verront Dieu. Ici, voir Dieu signifie posséder Dieu, avoir Dieu pour notre expérience et notre réjouissance. Je n'ai pas grandi aux États-Unis, je ne suis pas, j'ai pas grandi en Californie, mais en Nouvelle-Zélande, en tant qu'enfant, j'ai entendu parler de Disneyland. Et l'un des enfants dans mon école est allé aux États-Unis et il est allé à Disneyland. Il était une légende parmi nous. Mais un jour, je suis venu moi-même aux États-Unis. Et un jour, je suis allé à Disneyland. J'ai vu Disneyland. Ce qui veut dire que j'ai expérimenté et je me suis réjoui de Disneyland. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car vous verrez Dieu. Cela veut dire que vous expérimenterez, vous vous réjouirez de Dieu. Êtes-vous en train de lutter dans votre expérience et dans votre réjouissance de Dieu? C'est peut-être parce que quelque chose dans votre cœur, peut-être qu'il y a un mélange, quelque chose d'autre remplace Dieu comme but et empêche et frustre votre expérience et votre réjouissance de Dieu. Je n'ai pas suffisamment de temps. Vous savez, vous ne pouvez avoir qu'une seule chose que vous poursuivez. J'ai voulu apporter un arc et une flèche, mais l'ennemi sait que c'est très dangereux. Mais si je vous donnais un arc et une flèche et que je mettais deux cibles et je vous demandais d'atteindre les deux cibles en même temps, est-ce que vous pourriez le faire? C'est impossible. C'est impossible de viser deux choses en même temps. Pendant que vous visez l'une, vous négligerez l'autre. C'est ce que le Seigneur dit, vous devez être pur. Quel est le but de votre vie? Quel est le dessein de votre vie? Est-ce Dieu et sa demeure? Ou est-ce plus que vous cherchez à gagner? Ou bien est-ce cela plus quelque chose d'autre que vous voulez gagner? Vous ne pouvez pas viser ces deux cibles. B. Nous devons avoir non seulement une bonne conscience, mais aussi une conscience pure. Une bonne conscience est une conscience sans offense envers Dieu et envers les hommes. Une conscience pure est une conscience purifiée de tout mélange. Une telle conscience témoigne que, comme Paul, nous ne recherchons que Dieu et sa volonté. Si nous voulons être utilisés par Dieu, notre esprit doit être libéré et notre esprit doit être pur. Si les frères veulent mettre la dernière diapositive, 1 Pierre 1, 22, j'aimerais m'achever sur cela. Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Nous avons tous besoin de nous poser cette question. Si dans notre vie chrétienne, nous avons expérimenté la purification de notre âme par l'obéissance à la vérité. J'aimerais m'arrêter ici en nous encourageant. Passez du temps dans la parole du Seigneur. Pendant que vous le faites, le Seigneur vous gardera, vous guidera dans la vérité, dans la réalité. Et pendant que vous guidez dans la vérité et la réalité, il pourrait en même temps briller sur certaines choses dans vos cœurs qui l'empêchent d'obtenir, d'atteindre son dessein en vous. Et je vous encourage Allez, marchez, prenez quelque part avec le Seigneur, parlez avec lui au sujet de ces choses qu'il touche. Et comme Esdras, confessez ces choses, confessez au Seigneur, dites-lui que vous avez ces choses dans vos cœurs, dans votre cœur, et demandez au Seigneur de vous saturer de plus en plus avec son esprit. Et si le Seigneur vous demande de mettre, de vous séparer de quelque chose, faites-le. Éloignez-vous de cela, séparez-vous de cela. Et je l'ai dit, je ne veux pas vous donner une description de ce que cela peut être, parce que je crains que si je ne veux pas, si je dis quelque chose qui ne se retrouve pas dans votre cœur, vous pourrez dire non, tout va bien. J'ai un mélange en moi, vous avez également des mélanges en vous. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre de recouvrement. Il doit visiter chacun de nos cœurs. Nos cœurs doivent être ouverts au Seigneur. Ouvrons-nous à ce qu'il peut illuminer en nous, à sa parole, à ce qu'il peut toucher. Et nous devons apprendre à dire tout simplement, oui Seigneur, je confesse que j'ai ces choses. Je me donne à toi Seigneur. Sature-moi avec plus de toi-même. Et ensuite obéissez. Si le Seigneur dit, mettez cela de côté. Rejetez telle chose. Faites-le afin que le Seigneur puisse continuer à vous saturer plus en plus, afin qu'il gagne son dessein. Ok, j'aimerais m'arrêter ici.